Bienvenue dans le podcast Hacker News Daily de Brie. Je suis Claire Martin.
Et je suis Nicolas Moreau. Voici les titres du jour.
GPT-5.6 aurait résolu un problème ouvert en optimisation convexe vieux de 30 ans grâce à une requête spécifique. Des utilisateurs signalent que leurs limites d'utilisation de codecs ont été réinitialisées. Et l'analyse quantitative de Stack Exchange montre une chute des nouveaux messages sur Stack Overflow depuis 2020.
L'Union européenne applique désormais l'interdiction de détruire les vêtements et chaussures invendus. Le maire Mamdani déclare que les propriétaires ne peuvent pas utiliser secrètement des images générées par IA pour annoncer des logements. Et Google DeepMind et Isomorphic Labs détaillent leur approche en matière de biorésilience.
Commençons par une histoire qui a beaucoup fait réagir sur Hacker News cette semaine. GPT-5.6, le modèle d'OpenAI, aurait résolu un problème ouvert en optimisation convexe vieux de 30 ans, simplement grâce à une requête bien formulée.
C'est un billet Reddit, repris et analysé sur Hacker News, qui rapporte cette performance. L'auteur du post original est très clair sur un point. Le résultat n'introduit pas de technique fondamentalement nouvelle, ni en géométrie convexe, ni en théorie de l'optimisation.
Et c'est justement ça le cœur de la réflexion. L'auteur estime que les méthodes modernes d'IA peuvent désormais atteindre ce qui est réalisable avec les techniques existantes. Sa conclusion est assez frappante. Cela rendra obsolète le travail sur les problèmes à portée immédiate ou intermédiaire.
Il précise toutefois que les chercheurs restent indispensables pour les questions qui exigent des approches véritablement inédites. Un commentateur a qualifié ce constat de « nouvelle grande question », et c'est une formule qui résume bien le débat.
Pendant ce temps, une autre analyse publiée sur Hacker News compare GPT-5.6 Sol et l'approche du modèle Fable 5 sur un problème NP difficile, conçu spécifiquement pour ce type de test. L'analyse examine en particulier l'effet de la commande slash goal.
Un détail amusant a émergé dans les commentaires. Un utilisateur a remarqué que le graphique en haut de l'article affiche plus bas et mieux, mais l'axe des Y place 32 000 en bas et 40 000 en haut. Cela a suscité un échange pour savoir si l'axe était inversé ou non.
Au-delà de l'anecdote, un intervenant a déclaré que la commande slash goal avait tout simplement remplacé le mode plan dans son usage quotidien. Il décrit un schéma de travail précis. Il demande à l'IA de lire une fonctionnalité et de confirmer sa compréhension avant d'aller plus loin.
Ce qui ressort de ces deux discussions, c'est une question plus large. Jusqu'où ces modèles peuvent-ils aller dans la résolution de problèmes sans introduire de méthodes réellement nouvelles? Et à quel moment le chercheur humain redevient-il indispensable?
Changeons de sujet. Sur Hacker News, un fil de discussion intitulé « Codex Reset » rapporte que des utilisateurs voient leurs limites d'utilisation pour Claude se réinitialiser plus tôt que prévu.
Un commentaire de l'utilisateur YoNG pose directement la question. Est-ce que Claude fait quelque chose de similaire aux réinitialisations de Codex? Sa limite faillible s'est réinitialisée avant l'heure attendue.
L'utilisateur Zubidi répond que cela lui est arrivé une fois, mais qu'il n'a rien vu de comparable à ce qui se passe du côté de Codex.
Pacific Specific, de son côté, confirme avoir observé le phénomène sur son abonnement pro personnel. Il ajoute un détail intéressant. La commande d'utilisation indiquait une réinitialisation prévue pour le lendemain, au lieu d'une coupure immédiate.
Et il a eu l'impression que les prolongations, voire les réinitialisations, se multipliaient.
Enfin, Rovis138 apporte une précision supplémentaire. Un incident signalé la veille mentionnait que Fable nécessitait une utilisation supplémentaire. Il suppose que les équipes se préparent, peut-être à une montée en charge ou à un ajustement du service.
Pour l'instant, ces observations restent anecdotiques et éparpillées. Aucune communication officielle n'est venue confirmer un changement de politique de la part d'Anthropic. Mais le simple fait que les utilisateurs comparent cela aux réinitialisations de Codex montre que le sujet est sensible.
Poursuivons avec une analyse quantitative qui circule beaucoup. Un graphique montre la chute des nouveaux messages sur Stack Overflow, et la discussion qui l'accompagne est riche d'enseignements.
L'analyse, partagée sur Hacker News, s'appuie sur une requête SQL librement consultable sur data.stackexchange.com, et ce qu'on y lit est frappant. La pandémie de Covid-19 est directement visible dans les données, avec une bosse initiale suivie d'un déclin progressif.
Mais les commentateurs soulignent un point important. Une tendance baissière préexistait déjà avant la pandémie. Certains estiment que la plateforme déclinait depuis un moment, en partie à cause d'un design originel qui visait à concentrer toute l'information et d'une réputation de négativité de la communauté.
Et puis la pente s'accélère nettement à partir de 2023. L'hypothèse avancée par les participants est que les grands modèles de langage ont accéléré ce mouvement en offrant une alternative directe aux questions de programmation.
Il n'y a pas de consensus sur une fatalité. Un intervenant avance que sans l'intelligence artificielle, la courbe aurait pu se stabiliser ou même s'inverser. Mais il reconnaît lui-même que ce n'est pas démontrable.
Ce qui est certain, c'est que le paysage a profondément changé. Stack Overflow, qui était le réflexe de toute une génération de développeurs, voit son rôle se transformer sous la pression des assistants de code basés sur l'IA.
Terminons avec une information qui touche à la régulation environnementale. L'Union européenne applique désormais l'interdiction de détruire les vêtements et les chaussures invendus selon une annonce officielle publiée sur le site environnement.ecoeuropa.eu.
La mesure vise les grandes entreprises et doit entrer en vigueur progressivement à partir de juillet 2026.
Dans les commentaires sur Hacker News, l'utilisateur Cassiano Leal s'interroge sur un risque, celui de voir ses invendus simplement expédiés à l'étranger pour y être brûlés.
Volvoléo lui répond que de telles pratiques pourraient aussi être pénalisées. Il souligne qu'il faut cesser de considérer la réduction des déchets industriels intentionnels comme quelque chose de futile.
Graham apporte une nuance importante en rappelant la difficulté de colmater les failles et les exemptions dans ce type de réglementation. Le diable, comme souvent, se cache dans les détails de l'application.
Cette mesure européenne marque une étape, mais les commentaires montrent que la question de son efficacité réelle reste ouverte. C'est un débat qui ne fait sans doute que commencer. Le maire Mamdani a pris une position claire. Les propriétaires ne peuvent pas utiliser secrètement des images générées par intelligence artificielle pour annoncer des biens immobiliers. C'est ce que rapporte Petapixel, relayé sur Hacker News.
L'annonce a suscité une discussion intéressante. Un commentateur est allé plus loin, suggérant d'interdire catégoriquement l'usage de l'IA non seulement dans l'immobilier, mais aussi dans les jeux d'argent, les rencontres en ligne, le recrutement et la publicité.
Et sa justification est précise, il ne s'agit pas d'une méfiance envers l'IA elle-même, mais envers les humains qui l'utilisent. L'argument, c'est que l'interdiction serait largement bénéfique pour la société.
La discussion qui a suivi a creusé cette idée. Certains participants ont exprimé des doutes sur la confiance qu'on peut accorder à l'IA dans le domaine des rencontres en ligne, par exemple.
Et une question plus technique a émergé, où placer la limite? Est-ce que des retouches basiques comme l'ajustement de la balance des couleurs ou de la plage dynamique seraient considérées comme de l'IA? La frontière reste floue. Google, DeepMind et Isomorphic Labs viennent de détailler leur approche en matière de biorésilience. Le document, publié sur le blog de DeepMind, explique leur stratégie pour appliquer l'intelligence artificielle à la biodéfense.
Sur Hacker News, les réactions sont partagées. Punch Tornado, qui se présente comme actionnaire de Google, s'est dit déçu des performances récentes de l'entreprise. Son message, Google devrait moins parler et se concentrer davantage pour rattraper Anthropic et OpenAI.
Un autre intervenant, Dennis P, a un point de vue radicalement différent. Il souligne qu'en tant qu'humain, il se réjouit que Google applique l'IA à la biodéfense. Pour lui, c'est une bonne chose.
Onavo, de son côté, qualifie cette annonce de vieille tactique académique. Selon lui, lorsqu'une entreprise ne peut pas innover sur le travail des modèles, elle fait beaucoup de bruit autour de la sécurité, du contrôle d'accès et des risques existentiels.
Et Asekoun 37 apporte une nuance importante. Il rappelle que Anthropic est précisément l'entreprise qui communique le plus sur la sécurité de l'IA, tout en restant le pionnier des modèles de pointe à surveiller. Et cela avec bien moins de ressources de calcul et une base d'utilisateurs plus petite qu'OpenAI.
Le blogueur Stephen Boschinski a intitulé son billet « The Kimi K3 Moment ». Le titre fait référence au modèle Kimi K3 et la publication a suscité plusieurs réactions.
Une première question a émergé. Le texte du billet a-t-il été rédigé par Kimi K3 lui-même ou par l'outil Fable ? Un autre commentateur a répondu que le texte ne ressemblait en rien à une écriture d'IA.
Au-delà de cette question de paternité, plusieurs participants cherchaient un calculateur de coûts LLM à jour qui prenne en compte l'efficacité des tokens. Deux outils ont été cités.
Le premier, c'est deepsui.datacurve.ai. Le second, artificialanalysis.ai, mentionné avec son graphique de frontière de Pareto. Ces outils permettent d'évaluer les performances des modèles en tenant compte des coûts.
Et une autre préoccupation est apparue. Un intervenant s'interroge sur l'envoi de ces données au modèle chinois. Une question de confidentialité qui reste en suspens dans la discussion.
Un guide a été publié pour expliquer comment configurer un Mac de rechange afin que Claude Code puisse le contrôler. Une configuration qui permet de dédier une machine entière à l'outil.
Un utilisateur a réagi en partageant son expérience. Il fait déjà fonctionner Claude Desktop sur un Mac mini M4 séparé et le contrôle via Dispatch.
Mais un autre intervenant a précisé un point technique important. Dispatch, aussi appelé Cowork, exécute Claude Code dans un conteneur et ce conteneur entraîne des blocages.
Concrètement, Cowork ne peut pas télécharger ni remplir des PDF ou d'autres fichiers à cause des permissions du conteneur. Il échoue également avec JIT et ne peut pas supprimer les fichiers de verrou.
Alors que Claude Code, dans sa version vanilla, sans conteneur, utilise curl et wget sans aucun problème. Une différence notable pour ceux qui hésitent entre les deux approches. Un article scientifique intitulé « Cubes host security in the public record », accessible sur archive.org, a suscité une discussion nourrie sur Hacker News.
L'auteur, qui s'est identifié sous le pseudonyme ADG001 dans les commentaires, s'est montré ouvert aux questions des participants.
Un intervenant, Topfi, a souligné un aspect intéressant de la philosophie de conception originelle de Cubes OS.
Cette architecture repose sur un noyau minimal et une forte dépendance au correctif amont, ce qui réduit la quantité de code que l'équipe maintient elle-même.
Topfi estime que cette approche pourrait aussi inspirer des usages au-delà du seul renforcement de la sécurité, une idée qui élargit le champ des possibles pour ce type de conception.
C'est en effet une vision qui dépasse le cadre strict de la sécurité en misant sur la réduction de la surface de maintenance.
Passons à un projet qui ravira les amateurs de jeux rétro. Un éditeur de niveau Quake 3 entièrement dans le navigateur nommé Q3 Edit a été présenté.
Il propose une interface de type Radiant avec édition de brush, de patch, CSG, sculpture de terrain et édition d'entité.
Concrètement, Q3 Edit ouvre et sauvegarde des fichiers, maps, et permet de jouer les cartes directement dans le navigateur.
Cette lecture des cartes est rendue possible grâce à une version WebAssembly de IO Quake 3. Tout fonctionne sans quitter le navigateur.
Un bel exemple de ce que les technologies web modernes permettent aujourd'hui, y compris pour des outils de création historiquement lourds. Un article partagé sur Hacker News promeut le concept Hardcore Indie Web, qui consiste à gérer son propre site de façon totalement indépendante pour environ 0,01$ par jour.
Plusieurs commentateurs n'ont pas manqué de souligner une certaine ironie ou ont exprimé leur préférence pour des solutions d'hébergement gratuites et robustes.
Un utilisateur s'est réjoui de voir un site prônant cette indépendance sans être hébergé par Cloudflare ou GitHub Page. Un autre a ajouté « ni Vercel, ni Netlify ».
En contraste, d'autres intervenants défendent ces grandes plateformes. L'un apprécie Cloudflare pour maintenir des sites de piratage.
Un autre estime que GitHub Page, avec ses domaines et son SSL gratuit sans aucune facture, offre longévité et tranquillité d'esprit pour un site statique.
Un participant a mentionné qu'il écrit souvent sur GitHub Page, mais aussi à propos de l'auto-hébergement sur un Raspberry Pi installé chez lui.
Le débat illustre bien la tension entre l'idéal d'indépendance totale et la commodité des plateformes établies. Terminons avec transcript.pcp, un projet open source de transcription locale qui ambitionne de simplifier l'inférence sur appareil.
Un commentateur de Hacker News note que combiné avec un modèle TTS de 500 kilooctets présenté le même jour, la pile complète commence à prendre forme.
Un autre participant précise que la démonstration est impressionnante, mais que l'audio reste robotique.
Le créateur du projet souligne que son objectif est de faciliter l'inférence locale pour rendre les applications plus accessibles.
Il précise également qu'aucun texte de sa page n'a été généré par intelligence artificielle, une transparence jugée rassurante par un autre intervenant.
Cette démarche de clarté sur l'origine du contenu est de plus en plus valorisée dans la communauté open source.
Bon. Un article publié sur le site de l'ACM et relayé sur Hacker News pose une question qui dérange. Et si les protocoles pouvaient être conçus pour être minimalement compatibles avec un état de droit?
L'auteur de Goodbye and Thanks for All de Big Shed reproche aux tech bros leur refus de tout compromis. Selon lui, cette intransigeance aboutit à une perte de vie privée plus grande que ce qui serait nécessaire.
Alors l'idée, c'est qu'en acceptant certaines brèches techniques encadrées par la loi, on obtiendrait in fine une meilleure protection que celle qu'on a aujourd'hui.
Un commentateur conteste frontalement cette position. Il renvoie à un exemple très concret, les Stingrays, ces dispositifs de surveillance qui imitent des antennes relais.
Les Stingrays, et là le commentateur rappelle les abus légaux que ces appareils ont permis, des innocents espionnés en masse, avec des prétextes juridiques qualifiés de fragiles.
Sa conclusion est sans appel, il n'existe pas de compatibilité minimale. Soit la vie privée est techniquement garantie, soit elle ne l'est pas. Toute brèche techniquement permise devient vite une routine.
Et c'est là que l'argument devient vraiment intéressant. Le commentateur ne dit pas que c'est un risque théorique, il s'appuie sur ce qui s'est réellement passé avec les Stingrays pour montrer que la machine légale exploite systématiquement ses failles.
Voilà le cœur du désaccord. D'un côté, l'idée qu'un compromis technique bien calibré pourrait limiter les dégâts. De l'autre, l'affirmation que toute porte qu'on laisse ouverte sera franchie.
Et franchie de manière systématique. Le commentateur insiste, dès qu'une brèche est techniquement possible, elle devient une routine de surveillance. Pas l'exception, la routine.
L'article de l'ACM plaide donc pour une architecture qui accepterait certaines contraintes légales, mais en les rendant visibles et encadrées. Le commentateur répond que cette visibilité ne protège personne. On change de sujet. Un rapport de VideoCards, repris sur Hacker News, révèle que les moniteurs LG installent silencieusement des logiciels via Windows Update sans consentement.
Silencieusement, c'est le mot. Pas de notification, pas de case à cocher. Et un utilisateur le confirme, ça lui est arrivé sur sa machine Windows 11 poids.
Cet utilisateur précise un détail qui a son importance. La désinstallation n'était possible que depuis la bibliothèque du Microsoft Store. Impossible de passer par le panneau de configuration habituel.
Donc on se retrouve avec un logiciel qu'on n'a pas demandé et qu'on ne peut retirer que par un chemin bien spécifique.
Et un autre commentateur élargit le tableau. Il cite Razer, Logitech, Nvidia et en fait tous les fabricants dont les pilotes sont intégrés à Windows Update. Même pratique.
Et il apporte une précision importante, ce sont les fabricants eux-mêmes qui exigent cette inclusion dans Windows Update. Ce n'est pas Microsoft qui force la main.
Oui, la nuance est de taille. Le commentateur ne dit pas que Microsoft impose ses installations, il dit que les fabricants demandent à y être intégrés.
Et ça change la lecture du problème. On n'est plus sur un système qui décide pour vous, on est sur des constructeurs qui utilisent le canal de mise à jour de Windows comme un vecteur de déploiement.
Reste la question de la transparence. Qu'il s'agisse de LG, Razer, Logitech ou Nvidia, l'utilisateur ne voit rien passer. L'installation se fait en arrière-plan, sans consentement explicite.
Et le fait que la désinstallation passe par la bibliothèque du Microsoft Store rend l'opération moins évidente. L'utilisateur doit savoir où chercher. Voilà qui clôt cet épisode, on a couvert pas mal de terrain et certains sujets méritent qu'on les retienne.
Oui. Le plus frappant, c'est cette histoire autour de GPT-5.6. Un utilisateur lui a soumis une requête très spécifique et le modèle aurait résolu un problème ouvert en optimisation convexe ou un problème qui résistait aux chercheurs depuis 30 ans.
C'est le genre d'annonce qui donne le tournis. À côté de ça, la communauté tech est plus terre à terre. Sur Hacker News, des utilisateurs de Codex signalent que leurs limites d'utilisation ont été réinitialisées sans prévenir.
Et l'analyse des données de Stack Exchange confirme une réalité que beaucoup ressentaient. Les nouveaux messages sur Stack Overflow chutent nettement depuis 2020. La pandémie a marqué un tournant.
Sur le front réglementaire, l'Union européenne applique maintenant l'interdiction de détruire les vêtements et chaussures invendus. Et à San Francisco, le maire Mamdani a prévenu les propriétaires. Impossible d'utiliser en secret des images générées par IA pour annoncer des logements.
On a aussi évoqué DeepMind et Isomorphic Labs qui détaillent leur approche de biorésilience, un blogueur qui parle d'un moment Chimica 3 et se guide pour configurer un Mac de rechange que Claude Code peut contrôler.
Bref, entre les percées de l'IA, les tensions sur les plateformes communautaires et les régulations qui se resserrent, l'actualité ne manque pas de relief.
Merci de nous avoir écoutés, on se retrouve au prochain épisode.